Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre, c'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Michael Edwards, vous êtes poète et essayiste. Les littératures anglaises et françaises sont pour vous des objets de pensée. Et vous vous tenez à la fois dans les deux langues et dans l'entre-deux langues. Vous êtes le premier anglais à avoir été reçu à l'Académie française et vous avez été parallèlement anobli par la reine. Vous avez été deux fois là aussi, double vie supplémentaire en quelque sorte, titulaire d'une chaire au Collège de France. Le 7 décembre 2000, vous prononcez la leçon inaugurale qui ouvre vos cours à la chaire européenne. Ça s'appelle « Sur un verre d'Hamlet ». Et on imagine un peu lequel, mais comme toujours, vous arrivez à nous surprendre. Puis, le 11 décembre 2003, vous donnez la leçon qui inaugure votre chaire d'études de la création littéraire en langue anglaise. On va revenir, si vous voulez bien, sur les travaux que vous avez conduits au Collège de France, Michael Edwards. Vous y avez déployé les grands thèmes qui parcourent votre œuvre, disons les choses un peu pêle-mêle, Racine, Shakespeare, la poésie anglaise et son génie, l'émerveillement, Molière. Bizarre, aucun livre consacré spécifiquement à Baudelaire qui pourtant parcourt toute votre œuvre.
Baudelaire est un de mes poètes, effectivement. J'ai écrit beaucoup d'essais sur lui qui sont éparpillés dans divers livres. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'écrire un livre sur lui, curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la même chose avec Villon. J'ai écrit au moins 3 essais sur Villon, qui est absolument essentiel pour moi. Comme j'ai beaucoup écrit sur Wordsworth dans la littérature anglaise, il y a plusieurs écrivains comme Wordsworth et Milton sur lesquels j'ai écrit plusieurs fois. J'ai fait des cours au Collège de France, comme je les ai enseignés en Angleterre. Je n'ai pas écrit de livre dessus. Dans le cas de Shakespeare, je me suis dit que c'est une œuvre absolument immense, d'un esprit inépuisable et presque incroyable, et que cela faisait sens d'écrire une série de livres, chacun incomplet, chacun sur un aspect de son travail, de son œuvre. Dans le cas de Baudelaire, je n'aimerais pas écrire un livre sur lui qui aurait l'ambition d'être un livre sur l'ensemble de Baudelaire, vous voyez ce que je veux dire. Je n'aimerais pas donner l'impression qu'il est possible de le cerner. J'ai préféré, comme j'ai dit, éparpiller des essais. Dans le cas de Molière, j'aurais pu penser la même chose, sauf que j'avais cette idée que les farces, les soi-disant, enfin prétendues comédies sérieuses et les comédies ballets faisaient un tout, et que même si un livre sur Molière ne peut absolument pas l'épuiser, ce livre pourrait mettre ensemble des choses que normalement on sépare et que l'on voit très mal en général, parce que les comédies sérieuses, comme l'on dit, prime sur les farces et les comédies-ballets au point qu'on ne voit pas que la farce est la forme la plus profonde de la comédie et que la comédie-ballet est le cœur et le sommet de l'art de Molière.
Vous avez l'art et la manière, Michael Edwards, de montrer un peu l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir. Et alors, dans votre dernier livre, Bible et poésie, vous nous expliquez, je grossis le trait, mais à peine, que Dieu est un poète. Alors d'habitude, les poètes se prennent pour Dieu. Alors nous allons tout de même revisiter vos travaux, Michael Edwards, et on va commencer peut-être par ce fameux vers d'Hamlet et par ce qui s'ensuit. « To be or not to be, that is the question ». Donc vous posez la question, Pourquoi ce vers, qui contient la phrase la plus célèbre de la littérature anglaise, exerce-t-il une telle force d'envoûtement ? On a une petite partie de la réponse à la fin de votre leçon inaugurale. Vous dites que si vous relisez le vers « To be or not to be, that is the question », vous entendez la vieille langue anglaise d'avant l'arrivée des Normands. Et vous poursuivez « J'égrène les monosyllabes » qui semblent remonter au premier temps du langage, de ces parlers germaniques qui forment la substance de l'anglais moderne.
Oui, ce n'est pas pour cela que le vers exerce une telle influence et attire tellement l'attention. C'était, si je me rappelle bien, la dernière chose dont j'ai dit, que j'ai dite à propos du vers, parce que il me semblait bon de parler du fait que, à travers Shakespeare, nous avons accès à cette vieille langue anglaise, le vieil anglais. Oui, quand je parle anglais, je suis conscient de beaucoup de choses. D'abord du fait que je parle une langue germanique. On le nie très souvent en France d'ailleurs, c'est curieux. Il y a une sorte de mythe en France selon lequel la moitié de la langue anglaise est faite de mots d'origine française. C'est curieusement faux. Peut-être que la moitié des mots que l'on trouve dans le dictionnaire sont d'origine latine, et un certain pourcentage de ces mots sont venus du latin via le français, en partie par les Normands et en partie par les emprunts à d'autres moments. Mais dans la conversation et dans les écrits, les Anglais parlent une langue germanique. Et dans le livre que je viens de terminer, d'ailleurs, je montre certains passages célèbres de la littérature anglaise où, de temps en temps, il y a un mot français, d'origine française. Mais la plupart du temps, nous parlons anglo-saxon, disons. Nous parlons comme les vieux anglais. Et dans ce vers de Shakespeare, j'étais fasciné dès que j'y ai pensé, par le fait que tout est en vieil anglais jusqu'au dernier mot, qui est question. Question qui vient évidemment, je suppose, du français, pas directement du latin. Et les autres mots disent le problème, to be or not to be, that is the. Et le dernier mot, c'est le mot qui dit en quelque sorte qu'il y a une question, qu'il faut se poser une question à propos de l'être, ou plutôt d'être et ne pas être, ou n'être pas. Et ces monosyllabes me rappellent toute la langue des anglo-saxons, qui n'était pas uniquement monosyllabique, et évidemment, comme l'anglais moderne ne l'est pas uniquement. Presque toutes les prépositions et les petites particules le sont, mais qui avaient cette faculté qu'ont les monosyllabes, de s'agripper au réel. La vieille poésie anglo-saxonne, qui est évidemment très difficile à comprendre, surtout si on n'est pas anglais, est encore plus proche du réel de tous les jours, des sensations dans le corps, des objets qui vous entourent, des personnes.
C'est le côté germanique. Hein. On a vraiment l'impression que le mot fait le geste, oui. Accompagne le geste. Au fond.
Tout à fait, oui, oui. Et dans la poésie, cette impression est augmentée par le fait que la prosodie est là. La prosodie de la poésie vieille anglaise est fondée sur les accents, 4 accents par vers, et les accents tombent très fort et ajoutent à cette impression qu'on est vraiment en train de s'agripper au réel. Et en même temps, les anglo-saxons, peut-être après leur conversion au christianisme, je ne sais pas comment ils étaient avant parce que nous n'en savons rien, mais après leur conversion, ils étaient tout à fait capables de partir dans le monde de l'esprit, dans tous les mondes de l'esprit, de faire de la théologie, de faire des théories, etc. Ce n'est pas que leur langue manquait d'élan parce que concrète, comme maintenant l'anglais est une langue à la fois très proche du réel, de celui qui parle, de sa famille, de sa maison, de la campagne autour, du sky, qui est un mot viking, œuf qui est germanique, etc. Et une langue qui permet les grandes envolées de la poésie anglaise, de la philosophie anglaise, de Newton, etc.
De 2003 à 2008, vous avez donc été le titulaire de la chaire Études de la création littéraire en langue anglaise. Vous avez donné des cours sur Shakespeare et la tragédie, puis 2 années de cours sur le génie de la poésie anglaise. Vous dites que l'ambition fondamentale de la poésie anglaise serait de transformer le réel en respectant toutefois son autonomie. Elle cherche de bien des manières différentes et en même temps que tout un éventail de choses diverses, le réel renouvelé, un monde à la fois même et autre, elle procède moins selon la mimésis que selon l'anactisis, la récréation ou nouvelle création. Ces 2 années de cours sur le génie de la poésie anglaise ont donné lieu à des ouvrages magnifiques qu'on peut trouver d'ailleurs sous ce titre, le génie de la poésie anglaise, Michael Edwards. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des liens quand même implicites, par exemple entre votre cours sur le génie de la poésie anglaise, puis sur le cours qui viendra ensuite sur l'émerveillement, par exemple. On peut dire que c'est des thèmes qui se répondent l'un l'autre d'une certaine façon.
Tout à fait. Pour répondre à votre première question, lorsque j'envisage les années de cours au Collège de France, c'est avec beaucoup de nostalgie, parce que j'aimais énormément ce genre d'enseignement où on est libre d'enseigner sa recherche. C'est l'expression qui court dans les universités. Malheureusement, à l'université, on est bien obligé de donner des renseignements aux étudiants et les guider, etc. Au Collège de France, on écrit un livre et on lit les chapitres successivement, où on fait des notes en vue d'un livre, et c'est à partir des notes que l'on fait ses cours. Et j'ai toujours eu l'impression, depuis bien avant le collège, que les thèmes venaient successivement, parce que dès l'adolescence, en fait, ou dès les études à Cambridge, j'ai voulu étudier certaines choses et les approfondir. Et j'ai l'impression que année après année, j'ai fait ce que je voulais faire quand j'étais un simple étudiant à Cambridge.
Et vous avez réalisé vos rêves?
Pas tout à fait.
Mais presque. En partie,
oui, en partie, petit à petit. Je cherche maintenant de nouveaux horizons. Depuis le collège, j'ai voulu changer le genre de livre que j'écrivais, parce que je ne veux pas toujours écrire des livres sur la littérature, etc. Enfin, et j'ai préparé un livre sur l'art, qui est là, mais qui n'a pas vraiment de centre pour l'instant. J'ai publié ce livre sur la Bible, qui est un livre de théologie, en quelque sorte. Théologie et poésie, mais quand même théologie. Je viens de terminer un livre de dialogue sur la langue française. J'aimerais bien, à l'avenir, faire un livre qui serait une sorte de théologie philosophique ou philosophie théologique, je ne sais pas exactement. Et lorsque j'étais au collège, j'avais cette liberté merveilleuse, qui est aussi une énorme contrainte. À chaque fois que l'on parle au Collège de France, on est obligé de dire quelque chose de nouveau.
Mais en même temps, ce que vous dites est très très important, parce que en réalité, c'est vrai que le charme aussi, la libidocienne dit, enfin le bonheur, le désir, le plaisir d'apprendre au collège vient du fait que les professeurs, au fond, enseignent selon leur propre désir. Oui. Et donc, c'est un plaisir partagé avec les auditeurs du collège. Oui. Et ça, c'est très, très important. C'est même peut-être ce qui éveille le plus le bonheur de savoir.
Oui, il est très important que le collège garde non seulement cette liberté, mais cet esprit, qu'il ne devienne pas une sorte de super-université. Et ce qui est merveilleux au collège, ce qui était merveilleux pour moi quand je faisais des cours, c'est, comment le dire, avant, quand j'écrivais un livre, je m'adressais au lecteur, je n'écrivais jamais des textes sur X, je m'adressais toujours à quelqu'un. Mais dès que j'ai commencé au Collège de France, à chaque fois que j'avais une idée, au lieu de vouloir tout de suite l'écrire et le développer en l'écrivant, j'avais envie tout de suite de la dire. Et c'était merveilleux parce que j'avais constamment des idées au cours de mes cours. Hein, et même en faisant des cours, les idées me passaient par la tête et j'avais l'honnêteté de dire, je viens d'avoir une idée, je vous la donne pour ce qu'elle vaut, peut-être que la semaine prochaine je la relirai. Et j'avais envie donc de parler. Et pour moi c'était très important. Et la présence du public et leur attention, leur réaction.
Le public était très nombreux, il faut bien dire.
Oui. J'avais l'impression, comme vous dites, qu'un cours donnait des idées pour un autre cours. Par exemple, un des premiers cours, même, me semble-t-il, le premier cours que j'ai fait, concernait les comédies de Shakespeare.
Oui.
Et j'ai publié un livre, Shakespeare et la comédie de l'émerveillement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point l'émerveillement était absolument central, tout à fait négligé. Et depuis, c'est mon entrée un peu partout, parce qu'on dit, ah oui, l'émerveillement, c'est vous. Ce qui n'est pas vrai, parce que l'émerveillement, c'est Chrétien de Troyes, c'est Dickens,
oui, c'est Shakespeare. Oui, non, mais là, je crois que vous avez remis le lecteur français dans une question qu'il avait oubliée et qui est essentielle, au fond, pour vivre, pour lire, pour penser, pour marcher dans les rues, oui, pour rencontrer d'autres gens. Et donc, c'est une thématique absolument... C'est plus qu'une thématique, c'est un art de vivre au sens antique du terme, pratiquement.
Oui.
Et ça, en fait, c'est une capacité qui est proche à la fois de l'étonnement, de la béatitude... Et qui en même temps est un mouvement, parce que l'étonnement stupéfait souvent, la béatitude vous laisse tout à fait contemplatif, alors que l'émerveillement, ça laisse active la pensée,
oui,
et actif le corps.
Et l'émerveillement fait poser des questions aussi. C'est pour cela que dans mon livre, je parle de la merveille du mot en anglais, où « wonder », c'est à la fois l'émerveillement devant le ciel étoilé, une belle femme, n'importe quoi, et un mot que l'on utilise dans une phrase banale comme « I wonder if it will rain tomorrow », je me demande s'il va pleuvoir demain, je me demande si. Et dans l'émerveillement le plus ravissant, il y a toujours une sorte de question, pourquoi cet émerveillement, pourquoi la beauté est-elle si attirante? Et une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que pendant les cours du collège, et d'ailleurs pendant toute ma carrière, j'ai écrit beaucoup sur la littérature, beaucoup sur la peinture, pas mal sur la musique, pas uniquement sur les littératures françaises et anglaises d'ailleurs, j'ai écrit aussi sur Homère, Ovide, Dante, etc. Mais derrière toute cette attention portée à des œuvres littéraires, il y avait des idées qui s'exprimaient. Le possible, par exemple, l'attente. J'ai écrit un livre, Éloge de l'attente, qui est sorti d'ailleurs d'une conférence que j'ai donnée au Collège de France bien avant d'être nommé. Et pendant mes années de cours ici, l'émerveillement, bien sûr, le bonheur et d'autres. Et j'ai l'impression que ce sont plutôt des idées philosophiques dans le sens large du mot, plutôt que des commentaires de textes, des études d'auteurs, etc. Même quand j'étudie Shakespeare, il y a toujours des idées derrière l'étude.
Alors, à propos de Shakespeare, vous avez également donné un cours très très beau qui s'appelle « Shakespeare, le poète au théâtre ». Ça, c'est très, très important, mais aussi un cours sur le théâtre, ce que c'est que le théâtre. Mais vient de paraître un article de vous, Michael Edwards, dans la revue des Deux Mondes. Cet article de mai 2016 est intitulé « La folie Shakespeare ». Et on est très étonné de voir à quel point cette clé, qu'est le thème de la folie, permet d'entrer dans l'œuvre.
Oui.
Il y a beaucoup, en plus, beaucoup de folies différentes dans l'œuvre de Shakespeare. Vous mettez l'accent sur la multiplicité des folies possibles.
Oui. Encore une fois, c'est aussi l'idée de la folie qui est en réalité une profonde sagesse qui m'intéresse. Et si je me retourne vers Shakespeare, c'est parce qu'encore une fois, Shakespeare y était bien avant moi. Et dans son théâtre, il y a effectivement, je ne sais pas combien de formes de folie, que je n'ai pas étudiées évidemment de façon scolaire. la folie des clowns, la folie des fous, les folies des vrais fous, etc. Mais qui me donne l'impression que Shakespeare voyait bien que la sagesse, comme la poésie, n'est pas ce que l'on pense, que la sagesse est une forme de folie. Et je suis persuadé, mais on peut penser autrement, que sa conviction venait en partie du fait qu'il voyait que, pour revenir à Bible et poésie, la Bible elle-même prône une sorte de folie qui est le comble de la sagesse.
Mais de toute façon, c'est la fameuse phrase de saint Paul.
Oui.
Sur la folie et la sagesse.
Voilà. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons la folie de la croix. Et c'est un moment merveilleux, d'ailleurs, dans saint Paul, où ces deux cultures anciennes, absolument magnifiques,
la culture juive et la culture grecque,
voilà, sont mis en parallèle, sans que saint Paul dédaigne la culture grecque et les labrades, mais sont mis en contact pour que l'on voit la limite de l'idée de la sagesse purement humaine. Il y a une sorte de folie qui est extrêmement sage. Parce qu'il dit aussi, si vous voulez être sage, devenez fou. On ne devient pas fou pour rester fou, on devient fou pour être sage. Et l'émerveillement me semble une sorte de folie aussi.
Oui, et je cite un extrait de votre texte justement sur la folie Shakespeare. Vous dites que le théâtre de Shakespeare entraîne le spectateur dans toute la gamme de la folie, de la clownerie à l'altérité, etc., qu'il l'oblige à rencontrer des formes de pensée marginales et pourtant fondamentales, éclairantes. Et au fond, la folie est là pour révéler ce qui reste toujours très obscur et auquel on ne fait pas attention, comme l'émerveillement d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc c'est effectivement le point commun. Vous dites, je continue votre texte, c'est Polonius qui définit le mieux la folie shakespearienne en commentant celle d'Hamlet, que ses répliques sont parfois grosses de sens, une heureuse pertinence que la folie trouve souvent et dont la raison et la santé mentale ne pourraient accoucher avec autant d'à-propos.
N'est-ce pas merveilleux que Shakespeare donne l'expression la plus concentrée et la plus profonde de sa pensée à Polonius, qui est de bien des points de vue un idiot disert. Mais c'est à lui qu'il donne la pensée. Et c'est souvent le cas chez Shakespeare. À propos de la folie, par exemple, le seul personnage du Songe d'une nuit d'été, le seul personnage humain qui voit le monde des elfes et des fées, c'est Bottom. Les jeunes aristocrates qui se promènent dans la forêt, etc., Thésée et Hippolyta, le lendemain matin, n'y voient goutte. Mais Bottom est le seul à les voir, et quand il se réveille, il essaie de dire ce qu'il a vu. Et dans un passage extrêmement émouvant, et en même temps extrêmement hilarant, parce qu'il massacre un passage précisément de saint Paul, et c'est précisément dans les premiers chapitres de Corinthiens où saint Paul parle de la folie et de la sagesse. Et Bottom, qui est un tisserand plus ou moins illettré, qui massacre constamment l'anglais,
oui.
qui ne peut pas mettre deux mots ensemble sans nous faire rire, etc., c'est lui qui est en contact avec cette sagesse, avec, en fait, un passage où il est question des joies du ciel et du fait que nous ne pouvons pas savoir quelles sont ces joies. Et c'est Bottom qui, sans comprendre évidemment, et en parodiant saint Paul, en massacrant l'anglais, l'œil n'a pas entendu, l'oreille n'a point vu, etc., c'est lui qui est à la marge de notre expérience, à l'extrême limite, et qui entrevoit quelque chose d'autre.
Methought I was. There is no man can tell what. Methought I was. And methought I had. But man is but an ass if he can offer to say what methought I had. The eye of man hath not heard. The ear fear of man hath not seen. Man's hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart to report. What my dream was, what my dream was, my dream. I will get Peter Quince, the carpenter, to write a ballad of his dream, and be Jenny called Bottom's Dream. Bottom's Dream, because it hath no bottom.
Alors, nous allons parler, si vous voulez bien, de ce que vous faites à l'Académie,
ah.
Michael Edwards. Vous avez prononcé votre discours de réception à l'Académie le jeudi 22 mai 2014 et vous l'avez ouvert par une phrase d'un humour so british. Il faut dire que votre humour bien anglais a fait beaucoup, beaucoup pour la réputation de vos cours également. Alors, cette phrase d'ouverture, la voici. En m'ouvrant la porte de votre illustre compagnie, vous accueillez en votre sein bien pire qu'un étranger, un Anglais.
Rire dans l'assistance.
Rire dans l'assistance. Vous avez d'ailleurs, au sein de l'Académie, travaillé sur l'anglicisme avec
oui.
Edwards.
Oui, bien sûr. Chaque semaine, dans la commission du dictionnaire, nous tombons sur les anglicismes. Et je peste contre eux autant que mes collègues, sinon plus. Pas des anglicismes.
Quand même le seul poète qui peut utiliser des anglicismes sans que ça paraisse tout à fait hors de propos.
Oui, oui, en fait, j'essaie de ne pas en employer.
Alors, de temps en temps, ça vous arrive, mais ce que je voulais dire, par exemple, c'est qu'il y a quand même dans l'anglais des expressions intraduisibles et qui coïncident très bien avec ce qu'on a envie de dire. Par exemple, le mot « week-end ».
Hmm?
Bon. Si vous dites passe une bonne fin de semaine, ça, c'est pas exactement ça. Un week-end, ça suppose justement le repos, la possibilité de lire, de rester un peu au lit, de flâner. Bref, le mot week-end est intraduisible en français.
Vous voulez donner une mauvaise impression des Anglais qui passent tout le week-end à flâner, à rester au lit.
À lire interminablement des journaux.
Oui.
Ouais, oui,
il y a un peu de cela, en fait. Oui. Non, mais à l'Académie, nous n'avons rien contre les anglicismes utiles. Mais rien du tout. Mais,
donc le mot mais, week-end passe très bien.
Oui, je pense, oui, nous n'avons pas parlé de ce mot en particulier. Mais j'ai compris, en parlant avec les amis de l'Académie, parce que ce sont des amis, c'est ça qui est merveilleux à l'Académie française, qu'ils sont très ouverts à... aux mots anglais qui sont utiles.
Alors, donnez-nous un exemple.
Bah, week-end, évidemment. Je ne sais pas. Je n'ai pas tellement d'anglicisme à l'esprit. Je pourrais le dire dans l'autre sens. Les mots français qui sont très utiles aux Anglais. Parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement les Anglais, de temps en temps, importent des mots français, mais que la plupart du temps aussi, ils les laissent tels qu'ils étaient, tels qu'ils sont. Tête à tête, par exemple, on met les accents. Coup d'État, des mots que nous... lingerie, des mots que nous disons, pas exactement avec l'accent français, on ne peut pas aller jusque-là quand même, mais en essayant un peu de garder l'étrangeté du mot. Et c'est la même chose en français. Évidemment, on francise les mots étrangers parce que ça fait partie de la façon dont le français opère. Les Français aiment bien que tous les mots aient une résonance française. C'est leur façon de...
C'est presque une règle
oui.
française. Hein.
Oui.
Quand j'ai tout à fait débuté à la radio, j'ai demandé à un ami linguiste comment prononcer certains mots étrangers que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, c'est simple, en français, on francise tout.
La langue a évolué selon le désir... plus ou moins inconscient, des Français. Que les Français ont voulu que la langue ait une autre harmonie. Ils ont voulu que ce soit une langue surtout vocalique. Ils ont voulu aussi que ce soit une langue pas exactement monotone, j'emploie le mot dans le sens exact, mais où les variations entre le haut et le bas, et entre les accents forts et les accents faibles, etc., c'est ça.
Vous savez, c'est un reproche que nous adressent quand même beaucoup les auteurs français, africains, ou des Caraïbes, ou du Vietnam, etc., qui sont très mécontents de la manière dont on a une espèce de monopole métropolitain, du vu du français. Ils ont raison, d'ailleurs, parce que la langue reste vivante, justement, parce qu'on peut y apporter ses accents et
exactement.
Ses différences.
Et je pense, évidemment, on peut penser ce qu'on veut, mais je pense qu'il vaudrait mieux que le français devienne une famille de français. Comme l'anglais devient une famille d'anglais.
Oui.
Il y a une multiplicité de langues, c'est une multiplicité de possibilités, une multiplicité de mondes, de perspectives sur le réel, sur la vie, etc. C'est formidable.
On continue un petit peu sur vos travaux académiques, Michael Edwards. La vie des mots est longue et variée et leur mémoire tenace. Du coup, vous rappelez la présence de nos ancêtres les Gaulois, et puis aussi des Francs qui nous accompagnent dans notre quotidien.
Oui. Oui.
Alors j'apprends que truand, par exemple, est un mot gaulois.
Oui.
Et que.
Alors que félon est un mot francique.
Brisé, changé, chêne, bruyère, sapin, talus, dune.
Voilà.
Vosges, Morvan, la Marne, la Seine, la boue.
Oui.
Ça nous vient des Gaulois.
Oui.
Et des Francs viennent des choses aussi très truculentes. Bon, les couleurs, enfin bleu, gris, blanc, mais aussi un garçon, un félon, orgueil,
oui.
Haïr.
Oui, vous citez un de mes bloc-notes
oui.
sur le site de l'Académie. Une idée formidable d'ailleurs, avec, je pense que c'est Yves Pouliquen qui a eu l'idée il y a un moment, cette rubrique « Dire, ne pas dire ». Qui est précédé chaque mois par un bloc-notes écrit par un des académiciens. Et cela m'a beaucoup intéressé. J'en ai écrit plusieurs parce que ça me donne l'occasion de penser à la langue française d'une façon informelle. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un article, c'est un bloc-notes, justement.
Oui.
Et une des choses qui m'a intéressé, c'est le fait qu'en Angleterre, nous sommes... conscient, quand je dis « nous », je veux dire évidemment les gens qui s'intéressent à la langue, mais nous sommes conscients du fait que la langue est hybride, qu'il y a un fond germanique, un fond, disons, franco-latin, qu'il y a beaucoup de mots grecs, et qu'il y a énormément de mots d'autres langues. À la Renaissance, les écrivains anglais ont emprunté à une cinquantaine de langues étrangères, et nous savons, du moins les écrivains savent, passer du fond germanique au fond franco-latin. Cela crée toujours un effet. Alors qu'il me semble, depuis très longtemps d'ailleurs, qu'en France, on est moins conscient de l'apport des Gaulois et des Francs, et des Germaniques en général, les Burgondes, les Vikings, dont les Normands, qui ont beaucoup apporté à la langue française. Et je suppose qu'on en est moins conscient parce qu'on pense que le français est une langue latine. Il y a beaucoup de mots latins qui sont passés par des langues germaniques, en Angleterre aussi, pendant longtemps. Un exemple frivole.
Oui.
Mais pendant longtemps, je pensais que le mot anglais pour fromage, c'est-à-dire cheese, devait venir du vieil anglais. Un mot, un monosyllabe avec tch au début, ça me semblait tout à fait anglais. En fait, pas du tout. C'est le latin caseus, j'aurais dû y penser d'ailleurs, caseus, que les anglo-saxons ont reçu. Je ne sais pas si les anglo-saxons faisaient du fromage, je l'ignore. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un mot qu'ils n'avaient pas. Et ils ont retravaillé caseus, qui est devenu cheese.
Voyage des mots.
Oui, le voyage... j'aimerais bien que les Français prennent conscience de cette richesse de leur langue, parce que c'est effectivement une richesse. On voyage partout en France, dans le gaulois. Quand vous avez commencé à le dire, beaucoup de noms de rivières, de montagnes, de villes sont d'origine gauloise.
Alouette, mouton, bouc.
Oui, beaucoup d'objets, oui. Mm-hmm. Surtout à la campagne.
Et puis, plus étonnant, des noms de lieux. Nous nous promenons en Gaule, je vous cite.
Oui.
Grâce à quelques milliers de noms de lieux qui ont survécu. Des Cévennes et des Vosges au Morvan, de l'Oise et la Marne à la Seine, de Bordeaux et Lyon à Paris.
Ah oui, bon, ça doit être le cas si je l'ai dit. Il est curieux de voir à la commission du dictionnaire du jeudi matin que très souvent nous tombons sur des mots d'origine germanique, soit d'origine franque tout simplement, parce qu'après tout ce sont les Francs qui ont envahi le pays, donné leur nom au pays, créé la monarchie française. Soit des mots francs, soit des mots germaniques généraux, on ne sait pas exactement d'où, quelle était exactement l'origine du mot. Nous tombons aussi sur des mots scandinaves et des mots d'origine néerlandaise. De temps en temps, évidemment, sur des mots d'origine anglaise.
Décembre 2015, Michael Edwards, vous dirigez une séance. Votre discours s'intitule « La vertu de la poésie ». Alors, vous y faites l'inventaire des vertus de la poésie. La première vertu de la poésie serait de nous donner un accès plus intime au réel, de changer ce faisant notre perception du réel et de suggérer la possibilité d'un changement véritable.
Je suis d'accord. Oui, cela reprend ce que j'ai dit dans mon livre sur la poésie anglaise. Je pense effectivement que la poésie a cette, j'allais dire magie, ce n'est pas le mot, parce que dans beaucoup de cercles, c'est un mot suspect, évidemment,
oui.
Mais ce pouvoir, cette fonction, disons, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle décrit un objet, elle s'adresse à une personne, elle raconte une action, un événement, elle a cette fonction en même temps de transformer ce qu'elle dit. Elle la transforme en langue, bien sûr, la langue elle-même transforme. Il suffit de dire un arbre pour que, en quelque sorte, transformer l'arbre. L'arbre n'est pas le mot arbre. Et en un sens, c'est triste, parce que ça nous montre que nous ne sommes pas absolument en contact avec l'arbre, comme l'est une dryade, par exemple, d'où l'invention, me semble-t-il, des dryades, des oriades, des nymphes, des eaux, etc., des ondines. Et s'il y a une tristesse, il y a aussi une grande joie, parce que en nommant l'arbre, nous nous mettons en contact d'une autre façon. Et le poème qui ne dit pas simplement « arbre », mais qui dit quelque chose à propos de l'arbre, et qui le dit dans la prosodie, de façon rythmée, avec des sonorités qui s'harmonisent ou qui ne s'harmonisent pas, selon le désir du poète et du poème, avec une structure syntaxique un peu spéciale, etc., le poème prend l'arbre en charge, en quelque sorte.
Et oui.
et transforme notre perception de l'arbre, de son environnement, du rapport qu'il tient avec une émotion, avec une personne, avec un événement.
Au fond, c'est une définition quand même très ouverte de la poésie. Ça veut dire qu'on peut avoir une attitude poétique dans la vie, une manière d'être. Enfin, je ne dis pas systématique, parce qu'on n'est pas poète tout le temps, naturellement. Et on n'a pas toujours des gestes, ni des attitudes, ni des pensées, ni des actions poétiques. Mais il y a des manières d'être, parfois, qui sont des manières d'être poétiques. Parce qu'elles changent tout simplement, comme vous dites, notre perception du réel.
Ah ben je pense que l'essentiel, ce n'est pas d'écrire et de lire des poèmes, c'est de vivre poétiquement. Et je reviens un peu à ce que vous avez cité sur la poésie anglaise. J'ai dit effectivement que la poésie anglaise est animée, non pas par la mimésis, mais par l'anacthésis, par ce désir de transformer, et qu'elle est peut-être un peu spéciale dans le sens qu'en même temps, elle est très proche du réel. Donc, la recréation n'est pas une recréation par la fantaisie. On ne peut pas dire n'importe quoi. On n'emmène pas le monde dans un monde, un autre monde simplement fantaisiste. La poésie anglaise le fait. Je pense que toute poésie doit le faire. Les grands poètes français le font, évidemment, comme les grands poètes italiens, espagnols, allemands, etc. La poésie, en recréant le réel, doit en même temps respecter le réel et essayer de faire, pour citer encore une fois Mallarmé, mais le vers est tellement important, de transformer le réel en lui-même. Tel qu'en elle-même, l'éternité le change.
Alors, deuxième vertu de la poésie, au fond, qui découle directement de la première vertu, est de changer le moi du lecteur, bien sûr, mais aussi du poète. Et vous dites, la poésie étonne également le poète. Lui aussi la découvre.
Je pense que c'est vrai. Je suis sur le point d'écrire un article, un essai, conférence au départ, sur l'inspiration en poésie. Et je tremble un peu parce que je suis au début et je vois que je ne comprends pas.
C'est très difficile.
Mais il est très utile et très bon, je crois, de parler de ce que l'on ne comprend pas. Je vais essayer de comprendre avant de faire cette conférence. Et ce que je crois comprendre, c'est que quand on écrit un poème, on ne sait pas, en effet, ce que l'on va écrire. On peut avoir une idée très précise. On peut même voir la forme du poème. On peut même se dire, bon, il faut que ça commence là et que ça se termine là, etc. Mais dans l'acte d'écrire, on découvre que le poème veut aller dans certains sens, dans un certain sens. Et ça semble un peu mystique, évidemment, il n'y a pas de poème. Le poème n'est pas une volonté, un désir. C'est quelque chose en nous qui veut que le poème veut aller dans un certain sens. Mais en écrivant, j'ai toujours l'impression que ce qui me vient de bien, les mots, cette étrange syntaxe, ce bout de phrase auquel je n'avais pas pensé, que tout ce que j'aime à la fin ne vient pas de moi, arrive comme ça. Et je suis même persuadé que tout ce que nous pensons de bien arrive, nous disons communément, il me vient une idée, il me vient à l'esprit que, etc. Et effectivement, je pense que cela vient, et j'aime beaucoup, entre parenthèses, cette forme impersonnelle en français. Il me vient, comme on peut dire en français, il me souvient. Il me souvient que c'est merveilleux, la mémoire est presque impersonnelle. Et le poème est presque impersonnel dans le sens que ce sont les mots qui disent les mots qu'il faut dire, et c'est le langage qui se crée au fur et à mesure. Et quand on est dans disons, ce mood. Mood est un mot anglais qui est très utile en français. Quand on est dans ce mood, il y a des pans tout entiers de son passé ou des idées que l'on a eues sans vraiment les expliciter qui viennent. Des idées qui sont passées comme ça et qu'on n'a pas enregistrées.
Ce que vous êtes en train de dire, Michael Edwards, c'est que le poète est l'instrument du poème.
Oui, mais pas d'une façon mystique.
Non, j'ai bien compris.
Oui, le poème est en quelque sorte dans le poète. Il est à l'intérieur du poète, quelque part.
Mais le poème utilise le poète. Voilà. Oui. Pour faire surgir des sensations, des souvenirs, des mots, des résonances.
Oui. Et si ça ne se passe pas comme ça, le poème ne vaut rien du tout, parce que c'est simplement un poème qu'on a voulu. Et même avec la rhétorique et l'éloquence la plus merveilleuse possible, on arrive à faire un poème éloquent, plein de rhétorique et plein de bonne volonté, mais sans intérêt.
Flamme.
Oui, peut-être avec un certain intérêt,
sans flamme,
et oui.
Donc la troisième vertu, vous venez de nous en parler, de la troisième vertu de la poésie. Je parle toujours de votre discours sur la vertu de la poésie, oui. Donc qui est en réalité une multitude de vertus et en même temps la même puisque font tout découle de la première vertu, qui nous donne, donc, je rappelle aux auditeurs, un accès plus intime au réel et qui change notre perception du réel. Donc la troisième vertu, c'est, vous dites, le poète n'envisage pas le langage comme les autres écrivains. Au fond, il n'écrit pas, il parle, il écoute les propriétés sonores de sa langue qu'il tient à rendre audible, quelle que soit l'importance, voire l'urgence de ce qu'il cherche à dire. En poésie, Michael Edwards, la langue et ses mots vivent autrement et on l'espère vivent mieux.
On l'espère, oui, parce que sinon pourquoi écrire un poème ? Une des raisons pour lesquelles j'écris, je suis persuadé que c'est une des raisons pour lesquelles tous les poètes écrivent, c'est justement pour entrer dans la langue. J'allais dire sa langue, mais j'écris beaucoup de poèmes en français, après tout, d'entrer dans la langue et d'en voir le possible, d'en voir le bonheur, d'en voir l'émerveillement, pour me citer. Et je suis de plus en plus intéressé par le fait que les poètes qui ont les choses les plus urgentes ou les plus déplorables, les plus malheureuses à dire, écrivent des poèmes parfaitement formés et souvent des poèmes qui figurent parmi les plus beaux chants, comme dirait Musset. Je pense aux lamentations de Jérémie en ce moment. Jérémie se lamente sur Jérusalem et Jérusalem qui est tombée dans les mains d'un oppresseur, disons, les Hébreux, les Juifs qui sont en exil. Et il écrit 5 poèmes. Chaque poème a une série de versets, une série de versets. Les premières qui commencent par la première lettre de l'alphabet hébraïque, la deuxième série par la deuxième lettre, etc. Et on est tenté de se dire, mais on ne peut pas écrire des poèmes comme ça. C'est ridicule de vouloir écrire comme ça. Imaginez écrire un poème en français où tous les premiers vers commencent par la lettre A,
B, A, C,
oui, et ensuite B, C, D, etc. On a l'impression que c'est une folie. Mais en fait, c'est une folie très sage. Et cela montre que Jérémie, en même temps qu'il veut exprimer une angoisse extrêmement profonde, enfin, ce sont des poèmes qui vous prennent aux tripes, Jérusalem, Jérusalem, etc., il veut aussi que son chant soit un chant, et il veut faire parler la langue hébraïque. Il veut que du moins c'est mon interprétation, il veut qu'au-delà de la détresse et de la chute d'Israël, qui aurait pu très bien être anéanti, ils ne savaient pas à cette époque-là, ils étaient en exil, captifs, au-delà de toute cette angoisse, qu'il y ait une joie. Et la joie, il ne l'exprime pas nécessairement, je veux dire explicitement, il ne dit pas dans le poème, au-delà de cette chute, il y aura quand même une renaissance. Si je me rappelle bien, je n'ai pas encore relu les Lamentations, mais cette joie, il la met dans la forme du poème. Et en lisant le poème, même en traduction anglaise ou française, on est soulevé. Et c'est la même chose avec tant de poèmes de Baudelaire, pour revenir à Baudelaire. Où Villon, frères humains qui après nous vivaient, enfin, ça, je suis prêt à pleurer à chaque fois que je lis le poème. Mais en même temps, il y a une immense joie dans le poème. Parce qu'il n'a pas dit, je ne saurais pas le résumer de façon bête, mais il ne dit pas c'est affreux d'avoir été criminel et d'avoir été pendu, pensez à nous, soyez au moins un peu compatissants, etc. Et puis faites attention de ne pas faire comme nous et de subir le même sort. Au fond, c'est ce qu'il dit dans le poème. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est frères humains qui après nous vivaient, etc. Et chaque vers est plein de joie. Pleine de la joie du français de l'époque, pleine d'une syntaxe renouvelée, pleine de la sainteté de Villon, finalement. Je suis persuadé que c'était un saint criminel. Il me fait toujours penser au prêtre ivre, l'ivrogne, dans La puissance et la gloire de Graham Greene, ou Graham Greene, comme on dit en français, un saint qui est aussi très mauvais, plus criminel dans le cas de Villon que la plupart des chrétiens, moins criminel que le roi David, qui a fait tuer quelqu'un pour pouvoir épouser sa femme. Voilà. Oui.
Dans votre dernier livre, donc Bible et poésie, paru chez De Fallois, Michael Edwards, c'est pas votre dernier livre, c'est votre avant-dernier livre. Vous écrivez ceci, c'est très beau, c'est une belle, à mon avis, c'est une belle manière de proposer une définition impossible en réalité. Vous dites, la poésie ne se présente pas comme la manière la plus précise et la plus mémorable d'articuler ce qu'on avait à dire, mais comme la recherche simultanée de ce qui attend dans l'inexploré du langage, du monde et du poète. Je trouve que c'est une belle manière de... Alors, pourquoi est-ce que le mot définition me vient alors que ce n'est pas le bon mot ? Vous qui êtes académicien, est-ce que vous auriez autre chose à me proposer ?
C'est une façon de nommer ce phénomène, voilà, je dirais.
Une façon de nommer ce phénomène.
Oui, comme un poème est une façon de nommer le réel. Oui, il me semble qu'effectivement, la grande aventure du poème et l'émerveillement pour le poète, c'est précisément qu'il ne sait pas ce qu'il va dire, comme je l'ai dit, et qu'il sait que si le poème marche, et il n'est pas sûr que le poème marchera, évidemment, s'il marche, il va trouver un inexploré.
C'est ça.
Il va faire quelque chose de nouveau avec sa langue, il va faire avancer à son niveau, un peu, dans mon cas, énormément dans le cas de Baudelaire ou de Shakespeare, sa langue, ou une langue. Il va trouver quelque chose dans sa propre expérience qu'il n'avait pas vraiment vu. Il va trouver quelque chose dans ce que c'est que de vivre et d'être une personne humaine qui n'a peut-être pas été vue ou n'a pas été dite avant lui. Et dans tous les domaines, le poème va explorer et va dire ce qui va dire le non-dit, va percevoir l'inaperçu, va entendre l'inouï.
Jérusalem, Jérusalem,
après tout ce que vous nous dites du travail du poète, de ce qu'est un poète, de la lecture, des effets de la lecture, du poème, on aimerait beaucoup vous entendre nous lire un de vos poèmes, Michael Edwards. Et vous venez justement de publier chez Corlevour un recueil qui s'appelle « L'infiniment proche ». Est-ce que vous accepteriez de nous lire quelque chose ?
Très volontiers, merci. Je vais lire le poème qui a donné son titre au recueil « L'infiniment proche ». Le soleil inonde de son champagne invisible l'abrupte des rues de Paris, faisant miroiter dans les aquariums à mi-vitre, aquarium, même source qu'évier, sourde par toute l'Europe, aqua, water, hudor, wasser, whisky, vodka et egg, vive l'espoir que le monde dira, fera bonjour. Plus un clin d'œil d'Oudane à la peau brune, à la toilette soignée. Après le cinoche, aux imagines fluctuantes, une station dans ce bar où l'on se souvient des falaises qui scintillent au cap Torero, des proues leurrées, des épaves dormant dans les bras de Neptune, sur les trottoirs, qui ont retour en bande sous les halogènes lucides. Ils parlent de tout et de rien, puis tout, d'un coup, du chatoiement d'ombre sur du métal poli. Et cet après-midi d'un juin plus que fictif, regarde, allez savoir pourquoi, le ciel, miroitement d'origine et d'avenir, ou bien fenêtre aveugle.
Merci beaucoup, Michael Edwards.
Je vous en prie.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Michael Edwards, professeur honoraire, titulaire de la chaire d'études de création littéraire en langue anglaise. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter un entretien avec Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Belle journée à tous à l'écoute de France Culture.